Chapitre 7. Le vieux parc de Barlaumont s'égayait de claires toilettes en cet après-midi qui était celui de la garden party offerte par les châtelains. Des rires s'élevaient sous les épaisses frondaisons qui baignaient dans l'or ardent de la lumière d'été. Hélène de Marge, vêtue de blanc, allait de l'un à l'autre, admirée de tous. Floriane dit à la petite cour masculine très empressée qui l'entourait « Madame de Marge est vraiment idéale !» Un jeune officier s'exclama « C'est admirable d'entendre avouer cela par une jolie femme !» Elle riposta « Il y a des jolies femmes qui sont sincères, monsieur !»« Mais je m'en aperçois, mademoiselle, et c'est pour elle un charme de plus !» Elle sourit en effleurant d'un regard indolent ses admirateurs. Bruno ne se trouvait point parmi eux. Arrivé un peu en retard, il était venu la saluer, puis, la voyant ainsi entourée, il s'était écarté. Maintenant, il causait au milieu d'un groupe d'hommes, ou plutôt, il jetait çà et là dans l'entretien quelques monosyllabes. Son attention, malgré lui, ne quittait pas cet autre groupe où, de temps à autre, cascadait le rire délicieux de Floriane. Une sorte d'irritation montait en lui. Ces jeunes gens complimenteurs étaient de ceux dont elle lui avait dit naguère qu'il ennuyait. Cependant, elle ne faisait rien pour se soustraire à leurs hommages. Elle souriait, causait brillamment, les éblouissait tous par son charme subtil. Aujourd'hui, sa sœur et elle avaient quitté le demi-deuil. L'aînée portait une robe de voile blanc à grandes fleurs couleur d'émeraude. Sur ses cheveux ondulés, un petit chapeau de paille verte formé comme deux ailes qui se balançait à chacun de ses mouvements. Elle était le point de mire de tous les regards et les invités de Madame de Marge ne se faisaient pas faute de critiquer cette toilette, d'autant mieux qu'elle seyait admirablement à Floriane. De la voir ainsi l'objet de l'attention générale, Bruno ressentait une souffrance aiguë. Il devinait les réflexions qui se faisaient et dont quelques-unes, d'ailleurs, étaient déjà parvenues à ses oreilles. Sa pensée se reportait vers les 15 jours qui venaient de s'écouler. 5 fois, il était allé à la Hermelière, 3 fois, il avait rencontré Floriane au prieuré. Quelle conversation charmante, si élevée! Quel échange de pensées tout intime! Il lui semblait voir, chaque jour, cette âme faire un pas vers la vérité. Il lui semblait qu'il la tenait, qu'il allait la conduire à Dieu. Elle lui disait « Parlez encore, il m'est si doux de vous entendre !» Elle l'écoutait avec une sorte de ferveur avide qui éclairait ses yeux comme une flamme brûlante. Et lui sentait le zèle le dévorer un peu plus chaque jour. Cette âme, il la voulait. Quelle précieuse conquête elle serait! Mais aujourd'hui, cette Floriane-là semblait s'être évanouie. Il n'avait plus devant les yeux qu'une coquette à la mise osée qui, tout à l'heure, l'avait à peine regardée lorsqu'il s'était incliné devant elle. Mensonge, alors, sa prétendue lassitude de la vie mondaine. Mensonge, ses aspirations vers une existence sérieuse et son intérêt en apparence chaque jour plus vif pour les questions religieuses. Mensonge aussi, tous ses mots, tous ses soupirs, toutes ses confidences. Tout, tout. Elle n'avait vu là qu'un amusement de plus, un petit amusement de dilettante. Aujourd'hui, elle en était lasse. Avec un tranquille dédain, elle mettait Bruno de côté. Il essayait de se dire « Non, non, ce n'est pas possible. Elle était vraiment sérieuse quand elle me parlait ainsi. » Il se remémorait les heures passées près d'elle, dans l'intimité du petit salon où flottait le parfum de Floriane, ses jeux de physionomie, ses regards, ses sourires. De tout cela, qu'il endormait en une lente et progressive ivresse à chacune de ses rencontres avec Floriane, il se grisait de nouveau par le souvenir en la regardant, tandis que tout son être moral tressaillait sous l'étreinte d'une souffrance inconnue. « Tu me parais bien distrait, mon cher ami !» lui dit Henri de Marge, tandis que tous deux, un peu plus tard, se trouvaient un instant seuls. « Non ? Oui, c'est possible !» Le regard pénétrant d'Henri l'enveloppa. « Qu'as-tu ? Mais rien !» Henri eut un geste qui signifiait « Je n'en crois pas un mot ». Mais il n'insista pas. Bruno s'éloigna, alla errer sur les pelouses, arrêté par des amis, causant quelques minutes avec le même air absent, et toujours regardant vers ce point où les ailes vertes s'agitaient doucement sur des cheveux fauves. Il finit par aller s'asseoir près de sa mère au moment où les domestiques circulaient avec les plateaux garnis de rafraîchissements. Elle ne lui demanda pas, comme Henri de Marge, « Qu'as-tu ?» mais elle le regarda avec un émoi voilé. « C'est charmant, toutes ces toilettes élégantes, au milieu de cette verdure, » dit-elle. « Tout à fait charmant. » Le silence tomba entre eux. Trop de pensées occupaient leur cœur. Les phrases banales mouraient avant d'avoir été prononcées. Madame Ferrière gardait pourtant son air de sérénité lumineuse. Entre ses doigts, elle froissait doucement un fin mouchoir brodé. C'était le seul signe de son émotion cachée. Henri venait de se rapprocher du groupe qui entourait Floriane. Celle-ci l'appela et ils causèrent pendant quelques instants. La physionomie de Mademoiselle Jarlier témoignait d'un intérêt très vif. Elle se leva tout à coup avec un geste qui voulait dire « Allons !» En compagnie du châtelain, elle s'éloigna vers une allée du parc. « Monsieur de Marge va sans doute montrer à Mademoiselle Jarlier le petit lac des Fées, » dit Madame Ferrière. Bruno murmura « Sans doute. » Il suivait des yeux les deux silhouettes élégantes qui se mouvaient dans la lumière ombrée. La robe blanche fleurie de vert ondulait en plis harmonieux au rythme lent de la marche. Les ailes vertes, à cette distance, prenaient des tons plus doux près de leur ardent des cheveux. Floriane et M. de Marge causaient. À tout instant, Henri, plus grand que sa compagne, penchait vers elle sa taille souple. Ou bien la jeune fille levait la tête et alors son profil apparaissait pendant quelques secondes avec sa bouche attentive et l'ombre des cils autour de l'œil. Bruno les regardait et ne voyait plus qu'eux. Une amertume irritée s'insinuait en lui. Il songeait « C'est à moi qu'elle aurait dû demander de lui montrer le lac. C'est moi qui lui ai conté la légende l'autre jour. Mais non, elle aime mieux avoir pour cicérone le comte de Marge, ce grand seigneur très séduisant. » Jamais de telles pensées n'étaient venues à l'esprit de Bruno. Il avait trop l'habitude de surveiller sa conscience pour ne pas se reprendre aussitôt et s'émouvoir de pareil écart. Avec stupéfaction, il se demanda « Pourquoi ce mécontentement contre elle, contre lui ?» Il est très naturel qu'Henri, le maître de maison, montre à une invitée son domaine et Mademoiselle Jarlier devait s'adresser à lui plutôt qu'à un autre, sachant qu'un propriétaire est toujours flatté de l'attention apportée par ses hôtes à ceux qui lui appartiennent. Sous un bosquet, des musiciens préludaient un air de danse. Une sauterie s'organisait. Louis passa, ayant à son bras sa fiancée. Il souriait. La même joie tranquille était sur son front et dans les yeux sérieux de Marthe. Bruno ne dansait pas. D'un regard vague, il suivait les couples qui se formaient. Sa pensée se trouvait ailleurs. Elle cherchait la signification du malaise dont son âme était atteinte depuis un moment. Monsieur de Marge et Floriane reparurent dans l'allée. Ils marchaient lentement en causant toujours. La courte promenade avait fait monter une teinte très rosée aux joues de Floriane. Henri semblait fort gai et il avait ce fin sourire qui charmait sur sa physionomie, souvent un peu froide à l'égard des étrangers. En arrivant près des autres couples, Floriane prit le bras du jeune châtelain et tous deux se mêlèrent à la danse. Bruno ne les quittait pas des yeux. Avec une attention avide, il constatait leur grâce, leur souplesse élégante. Jamais les dons physiques d'Henri de Marge ne l'avaient frappé comme aujourd'hui. Évidemment, Floriane s'enorgueillissait d'avoir un tel cavalier. Lui ne pouvait qu'apprécier le charme de cette intelligence féminine, en dépit du genre un peu trop libre de Mademoiselle Jarlier, qu'il désapprouvait fort. Ils passèrent un moment tout près de Madame Ferrière et de Bruno. Un rayon de soleil fit étinceler les opales qui entouraient le cou de Floriane. Bruno ferma un instant les paupières. Le doux éclat des pierres l'avait-il ébloui? Ou bien le regard brillant qui s'était glissé fugitivement entre les cils légers? Ou encore le sourire énigmatique des lèvres rouges? Un frémissement courut en lui. Il se demanda « Qu'ai-je donc ?» Et il se leva sans s'apercevoir que sa mère le regardait. Il fallait qu'il remuât, qu'il secouât ses nerfs tendus. « Je vais marcher un peu, » dit-il. « Oui, c'est cela. Va, mon enfant. » Madame Ferrière le regarda s'éloigner. De multiples petits plis se formaient autour de ses yeux, qui étaient tristes et inquiets. La vieille Madame Auger, assise près d'elle, lui parla, et elle répondit d'une voix tranquille, en froissant toujours légèrement le mouchoir brodé. Elle souriait, mais des lèvres seulement, et en s'y obligeant. Toute sa pensée était ailleurs. Au passage, le docteur Hart prit le bras de Bruno. « Moi, j'en ai trop. » Le docteur le regarda d'un air amusé. « Vous dites ça avec une conviction. Décidément, vous n'êtes pas mondain. » « Pas du tout. C'est stupide, toutes ces fêtes, et j'allais précisément m'égarer un peu dans le parc. »« Eh bien, égarons-nous de compagnie, voulez-vous ?» Bruno acquiesça avec empressement. Il aimait mieux ne pas être seul avec ses pensées, s'étourdir dans la conversation, remettre à plus tard l'examen qu'il savait inéluctable, l'examen de son âme troublée où tant d'impressions étranges s'étaient heurtées cet après-midi. Quand ils revinrent, après une longue flânerie sous les futaies, caressée par la lumière qui se mourait, les hôtes de Varlaumont commençaient de prendre congé. Floriane riait au milieu d'un groupe de jeunesse. Elle offrait toute la vivante blancheur de son visage à la clarté du soir et à la brise rafraîchie qui apportait les parfums des jardins. En apercevant Bruno, elle vint à lui de cette allure à la fois nonchalante et décidée qui lui était particulière. « Vous faites le beau ténébreux, » dit-elle avec un léger sourire d'ironie. Il se raidit contre l'émotion frémissante qu'il sentait venir et riposta avec un peu de sécheresse. « Aucunement, mademoiselle, mais les amusements mondains ne sont guère mon fait et je leur ai préféré une promenade dans ce parc superbe dont je ne me lasse pas. » « Superbe, en effet. Monsieur de Marge m'a montré ce lac dont vous m'aviez conté la légende. Nous avons beaucoup parlé de vous. Il m'a appris que vous deviez ce nom de Bruno, qui me semble si délicieusement vieillot, à un frère de Monsieur Ferrière, un chartreux. Aucun ne vous siérait mieux. Vous êtes presque un moine laïque. » Elle parlait d'un ton sérieux, mais l'éclat de ses yeux s'avivait d'une lueur d'ironie très douce. Bruno eut un frisson intérieur. Il abaissait un peu ses paupières, comme tout à l'heure, en ripostant d'un ton qu'il essayait de rendre indifférent. « Vous exagérez, mais je voudrais que vous disiez vrai. » Elle eut un rire bas et doux qui entr'ouvrit à peine ses lèvres. Sur la blancheur palpitante de son cou, le reflet bleuâtre des opales glissa. Elle leva lentement la main et la posa sur le bras de Bruno. « Moi, je ne le voudrais pas, car vous trouveriez peut-être trop profane nos charmantes séances de musique et nos causeries. Vous viendrez un de ces jours ?» Il répondit machinalement, « Je ne sais. » Ses paupières se soulevaient malgré lui. Il eut un nouveau frisson en rencontrant le regard brillant de Floriane. « Comment, vous ne savez? Mais je vous veux. Nous avons des morceaux à déchiffrer. Je compte sur vous, monsieur Bruno. » Sa main s'appuyait un peu plus, doucement. Elle était brûlante sous le gant clair et Bruno eut l'impression que cette chaleur, pénétrant à travers la manche de son vêtement, s'insinuait dans ses veines jusqu'à son cœur. Floriane répéta avec un sourire pensif, « Monsieur Bruno, j'aime vous appeler ainsi, j'aime ce nom, je ne voudrais pas que vous en eussiez un autre. » Son regard n'était plus qu'une caresse. Bruno y perdit le sien pendant quelques secondes avec enivrement en répondant d'un ton machinal « Mais oui, j'irai à la Hermelière, naturellement. » Une pression très longue de la main fine le remercia. « Vous êtes le plus charmant des amis. À bientôt. » Elle s'éloigna pour rejoindre sa sœur qui, rouge et animée tout à l'heure, semblait maintenant ne plus pouvoir se soutenir. Leurs parents et elle prirent aussitôt congé des châtelains. Bientôt, ceux-ci se trouvèrent seuls avec quelques intimes, parmi lesquels les Ferrières qu'ils retenaient à dîner. Madame de Marge se rapprocha de Madame Ferrière, elles causèrent ensemble un instant, puis Henri les rejoignit, échangea quelques mots avec elle. Bruno s'était assis près de son frère et de Marc Lobrel et les écoutait d'un air distrait en prenant part à la conversation seulement par une phrase jetée çà et là. Il essayait de s'intéresser à leurs propos pour ne pas sentir ce malaise qui augmentait, qui faisait battre fébrilement ses artères comme à la menace d'un péril. Henri se rapprocha et prit une chaise près des jeunes gens. « Eh bien, était-ce réussi ?»«
Tout à fait, » dit Marthe. « Madame de Marge et vous, monsieur, avez une si charmante façon de recevoir. Personne ne sait exercer l'hospitalité comme à Varlomont. »
Et Louis ajouta, « C'est mon avis, c'est celui de tous. Monsieur Jarlier me le disait aussi tout à l'heure. Voilà des voisins que je me serais dispensé d'inviter si j'avais pu. » Oui, le père est déplaisant et les jeunes filles d'allure trop libre, fort coquettes en outre, la cadette surtout.
Surtout, tu crois, mon cher?
Oui, elle l'est peut-être davantage en apparence, elle est surtout plus folle, plus inconséquente, très mal élevée en un mot. Mais l'aînée est infiniment plus dangereuse. J'ai voulu l'étudier un peu, c'est pourquoi je lui ai offert de la conduire jusqu'au lac. Nous avons causé. Elle est fort intelligente, elle doit être sérieuse quand elle le veut, elle a certainement une volonté très ferme qui sait mettre tout en jeu pour atteindre son but. Le jour où cette femme-là aura une ambition ou une passion, rien ne la retiendra, et elle possède tous les signes de la plus terrible coquetterie, celle qui se cache. Le jour, en mourant, devenait très rose. La robe blanche de Madame de Marge prenait des tons d'aurore. Le teint mat de Madame Ferrière s'éclairait d'un reflet pourpré. Les yeux couleur de noisette, inquiets et tendres, revenaient sans cesse à Bruno. La mère n'entendait pas les paroles échangées, mais elle songeait « Que disent-ils en ce moment? Monsieur de Marge parle-t-il d'elle ?» Bruno change de visage. Il regarde Monsieur de Marge, il va parler. « Que dit-il ? » Au dernier mot d'Henri, Bruno avait légèrement rougi. Il riposta avec une sorte de véhémence. « En vérité, je ne te reconnais plus. Tu n'es pas coutumier de jugements semblables. Et ici, le fait est d'autant plus surprenant qu'il s'agit d'une jeune fille des plus honorables. Rien dans sa conduite ne peut autoriser une accusation portée à ce degré. Qu'elle soit un peu coquette, c'est possible. Son éducation, son milieu, seuls doivent en être cause, car par ailleurs, sa nature est sérieuse, sincère, très attirée vers les idées nobles et les sentiments élevés. Elle est de toute façon une femme remarquable. Je puis te l'affirmer, car je la connais maintenant. » Henri dit tranquillement, « Non, tu ne la connais pas. » Il regardait son ami de cet air ferme et réfléchi qu'il prenait aux heures graves de la vie. Et il ajouta, prévenant le geste de protestation déjà esquissé par Bruno, « Tu n'es pas fait pour connaître les femmes, ce genre de femmes-là. Un ancien aurait dit d'elles qu'elles sont issues de l'union du sphinx et de la sirène. Cela les dépeindrait assez bien. Toi, tu as toujours fui le monde, tu les ignores. Je crois que ceci est un danger pour qui n'est pas destiné à vivre dans la solitude d'un cloître. Il est bon d'être averti du péril pour s'en défier. » Sur le teint de Bruno, la rougeur s'accentua pendant quelques secondes. Une poussée d'émotion charria fortement le sang dans ses artères et fit trembler ses mains. Il dit d'une voix légèrement enrouée « Je crois que tu te trompes sur elle. » Le sang s'était déjà retiré de son visage qui semblait maintenant très pâle. Il ne se mêla plus à la conversation et, pendant le dîner, fit effort pour prononcer quelques mots, pour avaler quelques bouchées des mets présentés par les domestiques. Dès que les châtelains et leurs hôtes furent passés au salon, ou se furent dispersés sur la terrasse et aux alentours du château, il se glissa au dehors et se perdit dans une allée. Un peu de vent s'élevait. Les feuillages s'agitaient avec un bruit léger, comme un froissement de soie. Une lueur incertaine permettait de se diriger dans la nuit, mais n'atteignait pas jusqu'au fond des bosquets qui restaient obscurs. Bruno s'arrêta à un petit rond-point et s'assit sur un des bancs placés là. Il courba son buse, posa ses coudes sur ses genoux et couvrit de ses mains son visage qui brûlait. Alors il se mit en face de la vérité entrevue tout à l'heure quand Henri avait parlé. Un frisson d'ivresse fit vibrer tout son être. Il murmura « Ce n'est pas possible! Ce n'est pas possible !» Et un effroi l'étreignit, l'effroi de l'amour qu'il avait ignoré jusqu'ici et qu'il découvrait tout à coup dans son cœur vierge, dont il avait fait à Dieu le don implicite.